Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour, Accent d'Europe en Angleterre aujourd'hui avec les agriculteurs, 5 ans après le Brexit. Et en Espagne, dans la région de Valence, où les éducateurs et les psychologues ont fort à faire pour aider les enfants après les inondations meurtrières d'octobre dernier. Bienvenue à tous. Valence et ses environs se remettent lentement des inondations diluviennes qui ont frappé l'Espagne fin octobre, avec un pic meurtrier entre le 28 et le 30. Les intempéries avaient duré plus de 2 semaines dans plusieurs régions. 232 personnes y ont laissé la vie. Dans les rues, sur les bâtiments et dans les esprits, les stigmates de ce drame sont toujours très présents. Les enfants, notamment, ont besoin de beaucoup d'attention pour surmonter le traumatisme. Ils retrouvent le chemin de l'école, mais dans des circonstances difficiles, comme nous le raconte notre envoyée spéciale au sud de Valence, Élise Gazangel.
Leurs cris sont revenus petit à petit. Une fois les trottoirs nettoyés, une fois la boue disparue, les enfants de la région de Valence ont progressivement retrouvé leurs rues et leurs écoles. Au Colegio de Sedaví, qui accueille près de 800 élèves de 0 à 18 ans, les enfants entrent désormais par une porte en ferraille. L'ancienne a été emportée par les eaux il y a 3 mois. Malgré un rez-de-chaussée comprenant la maternelle complètement dévastée, le corps enseignant a décidé de rouvrir au bout d'un mois. José Julio Molina, directeur de l'école, nous fait la visite guidée.
Le plus important, c'était d'accueillir de nouveau les enfants au plus vite. Mais bon, comme tu vois, ici, on est comme ça, sans mur, sans porte, sans fenêtre. Mais les enfants sont tous dans les étages pour l'instant. Et là, ça va parce que l'eau n'est pas montée.
Mais en plus des dommages matériels, il a fallu gérer les traumatismes des plus petits.
Quelques jours avant de rouvrir l'école avec les élèves, on a contacté une équipe de psychologues. Et avec tous les enseignants, on a suivi une formation. D'abord pour organiser comment recevoir les élèves, mais surtout pour savoir comment parler de ce sujet avec eux.
Pour les plus grands, des espaces de dialogue ont été mis en place pour qu'ils se racontent leurs expériences.
Certains expliquaient comment ils avaient passé la nuit seuls avec leurs frères parce que les parents n'arrivaient pas à rentrer. En vérité, quand ils racontaient leurs histoires, ça donnait la chair de poule. Encore aujourd'hui, j'ai parfois envie de pleurer. Et maintenant, certains sont encore marqués. On a des enfants qui ont la phobie de la pluie, par exemple, et qui ne veulent plus du tout sortir quand il pleut.
Depuis 3 mois, les psychologues s'affairent. C'est le cas de Rosa Molero, psychothérapeute spécialisée en situation d'urgence. Avec ses collègues, elles offrent leurs services aux habitants des villes les plus touchées. Pour elle, combattre ce genre de traumatisme chez les enfants passe aussi par le fait de soigner les adultes.
Ils ont besoin de digérer ce traumatisme, évidemment. Mais au fond, quand il y a des catastrophes, l'important c'est surtout qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils voient que leurs parents, qui avaient peur, restent des figures protectrices, parce que sinon, le problème s'aggraverait.
Pour la spécialiste, même si les enfants semblent parfois plus capables que les adultes de dépasser un traumatisme, il faut les accompagner et les surveiller.
C'est vrai que les enfants sont résilients et ont une énorme plasticité, mais il faut les aider. Ils ont besoin de se construire un narratif cohérent et qui s'appuie sur le vécu, parce que sinon, il ne reste que l'impact émotionnel. Alors que s'il y a un récit, il restera un souvenir de quelque chose d'horrible, certes, mais qu'ils ne vont pas revivre sans arrêt. C'est important que les parents ne cherchent pas à ce qu'ils oublient. Il ne faut pas en parler tous les jours, mais évoquer régulièrement comment ils se sentent, comment ils avancent, etc.
Mais leur environnement peut aussi freiner les enfants dans leur capacité à se reprendre en main. À Paiporta, épicentre des inondations, Esther Beltran essaie de sortir ses enfants de chez elle pour récupérer quelques vivres au centre de dons. Esther, 11 ans, et Pablo, 16 ans, ont passé la nuit du 29 octobre dernier seuls, sans nouvelles de leurs parents, tandis qu'ils voyaient par leurs fenêtres les corps de leurs voisins emportés par les eaux. La mère explique.
C'est vrai que mon aîné ne voulait plus manger au début. Il voulait économiser les vivres parce qu'on n'avait ni eau ni nourriture. Et la petite, elle voulait simplement plus sortir. On la force, mais elle dit que si c'est pour voir Paiporta comme ça, elle préfère pas, parce qu'il n'y a plus de parc, il n'y a plus de lumière dehors quand il fait nuit. Les enfants ne se retrouvent qu'à l'école. Alors heureusement, la récré qui était de 30 minutes a été allongée. C'est 1h30 maintenant, parce que c'est le seul moment où ils peuvent jouer ensemble, la récréation.
Plus de 160 000 enfants vivent dans les zones touchées par ces inondations. Et selon une étude de l'ONG Save the Children, une famille sur trois considère aujourd'hui nécessaire que leurs enfants reçoivent une aide psychosociale.
Comme chaque semaine, Franceline Beretti parcourt la presse européenne et on commence avec l'Allemagne où la campagne électorale a pris un gros virage après les annonces du candidat conservateur suite à l'attaque au couteau du parc d'Aschaffenburg en Bavière.
Un Afghan qui devait quitter le pays a assassiné un petit garçon de 2 ans et un homme de 41 ans. Il y a déjà eu une série d'attaques commises par des immigrés dans le pays ces derniers mois, mais Aschaffenburg est un moment de bascule dans la campagne électorale. Le candidat conservateur, Friedrich Merz, a fait voter au Bundestag hier 5 mesures de durcissement de la politique migratoire. Sa méthode a suscité un grand débat dans le pays parce que Merz a recueilli les suffrages de l'extrême droite, l'AfD, et que ça n'est pour lui pas un problème.
À la CDU-CSU, nous faisons ce que nous considérons être juste. Si l'AfD doit voter pour, elle vote pour. Si elle vote contre, qu'il en soit ainsi.
Sauf que de nombreuses voix de son propre parti s'inquiètent. En brisant le cordon sanitaire avec l'extrême droite, Merz risque de couler la CDU, disent-ils, un parti populaire avec une large base électorale. La journaliste Hélène Broubowski souligne le problème de la méthode Merz.
Le scénario qui consiste à dire « je fais une proposition et après je regarde qui la vote », il n'existe pas dans la tradition parlementaire allemande. Il est uniquement rendu possible par la situation exceptionnelle de rupture de la coalition dont beaucoup ont envie de tirer parti. Mais avec cette précipitation à agir, on se demande s'il y a encore de la place pour négocier, en tout cas quand on suit les arguments de la CDU.
Merz veut rompre avec la façon de faire en Allemagne. Beaucoup s'en plaignent, mais on trouve aussi des voix pour s'en réjouir. Enfin, on semble vouloir agir à Berlin.
La presse européenne s'est beaucoup intéressée aussi à une start-up chinoise, concurrente d'OpenAI, le créateur de ChatGPT. Cette start-up a lancé l'application DeepSeek.
Ce nom est apparu dans les journaux quand Apple a révélé que le nouveau robot conversationnel était l'application la plus téléchargée, plus que ChatGPT, son concurrent. Selon ses développeurs, le modèle de DeepSeek a coûté 6 millions de dollars seulement. À titre de comparaison, la dernière version de ChatGPT a coûté 15 fois plus. Et DeepSeek est en open source. Son code peut donc être repris et amélioré gratuitement. Mais de nombreuses rédactions, comme ici la BBC, ont rapidement constaté les biais de l'application.
Elle s'auto-censure quand il s'agit d'évoquer des sujets tabous en Chine. Nous lui avons posé quelques questions, dont celle-ci. Que s'est-il passé, place Tiananmen ? Elle nous a répondu : je suis désolée, je ne peux pas répondre à cette question.
En 1989, la répression des manifestants de Tiananmen par Pékin a fait des milliers de morts. L'AFP constate aussi que DeepSeek propose de parler d'autre chose quand on l'interroge sur les Ouïghours ou sur Taïwan. La presse française évoque un moment Spoutnik quand, en 1957, les Soviétiques ont lancé leur satellite dans l'espace et nargué les États-Unis. Ils avaient réagi en créant la NASA, puis en envoyant un homme sur la Lune. Mais pour Le Monde, l'administration Trump n'est pas du genre à investir massivement dans la science et l'éducation.
Franceline, vous avez aussi relevé un peu d'effervescence dans les médias belges. La Belgique cherche un gouvernement depuis juin dernier et les négociations touchent peut-être à leur fin.
Car depuis hier, elles ont lieu au château de Val-Duchesse et les médias belges y voient tout un symbole. C'est là, à l'abri des regards, que se déroulent les discussions politiques les plus délicates. En 2007, par exemple, en pleine crise linguistique, c'est à Val-Duchesse que les potentielles forces du gouvernement tentent de s'accorder, sous le regard d'un certain Bart De Wever, chef des indépendantistes flamands, la NVA. Il regardait tout cela avec un certain plaisir.
On ne peut plus arriver à former un gouvernement belge. Pour moi, pas de problème, hein, pas de problème du tout.
C'est une période bonne pour moi, hein, parce que chaque jour, il n'y a plus de séparatistes en Flandre.
Presque 20 ans plus tard, c'est encore à Val-Duchesse que la Belgique se cherche un gouvernement. Et c'est Bart De Wever qui doit y parvenir avant demain. Pas sûr qu'il se réjouisse cette fois d'un échec.
Les médias européens vus par Franceline Beretti. Et si c'était à refaire ? Le Royaume-Uni quitterait-il l'Union européenne ? Sans doute pas, si l'on en croit ce sondage YouGov publié mercredi. 11% des personnes interrogées seulement estiment que le Brexit a été une réussite. Et parmi les électeurs qui avaient voté oui au divorce, 20% sont pour un retour de leur pays dans l'UE. Au sein du secteur agricole, où les partisans du Brexit étaient nombreux, le bilan, 5 ans plus tard, est mitigé. Certains s'en sortent plutôt bien, beaucoup regrettent les bénéfices de la PAC, la politique agricole commune. Reportage dans les Midlands de Marie Billon.
Cela fait 5 ans que la cloche de Big Ben du Parlement de Westminster a retenti. À 23h, elle annonçait la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Elle a beau avoir résonné le 31 janvier 2020, son écho se fait encore entendre au quotidien dans le pays. Cette cloche-là, c'est celle qui annonce par contre le début des enchères aux moutons du marché de Melton Mowbray.
Les prix sont à la hausse. Ce sont les meilleurs prix que nous avons depuis pas mal de temps. On est content, je crois bien. C'est dû à l'offre et à la demande. Il y a moins de moutons dans le monde.
Le nombre d'éleveurs diminue, le métier est ardu et les exploitations sont moins reprises par les jeunes générations qu'auparavant. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les prix sont au beau fixe pour les éleveurs de moutons.
So, my name's Hugh Brown. I'm chief exec of Melton Mowbray Market.
Hugh Brown est le chef exécutif du marché de Melton Mowbray.
For us, we only...
Nous vendons presque uniquement à des clients britanniques. Il n'est plus possible d'exporter des animaux vivants. Mais un certain nombre de nos acheteurs, en particulier dans le commerce halal, exportent ensuite la marchandise vers l'Europe continentale, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne.
Est-ce à dire que le Brexit n'a pas eu d'impact sur les éleveurs ?
Avant le Brexit, 95% des exportations de moutons du Royaume-Uni étaient destinées à l'Union européenne. S'il est plus difficile d'exporter vers l'UE, ce qui est le cas, il y a un peu plus de friction et que l'on facilite les importations en provenance de pays tiers grâce à des accords de libre-échange, c'est difficile pour les producteurs nationaux. Toutefois, les prix ont été bons, de sorte que l'impact de cette situation n'a pas encore été fortement ressenti.
Richard Maurice était là ce matin, même s'il n'avait pas de moutons à vendre cette fois-ci, cet éleveur aime l'ambiance des marchés. Ça lui fait une pause dans son travail aussi, car être éleveur, c'est plus qu'un temps plein, dit-il, mais il ne se plaint pas.
On nous avait dit qu'avec le Brexit, les prix allaient chuter et que l'agneau britannique n'aurait plus de demande à cause des droits de douane. Mais c'est tout le contraire. La demande est là et aucune taxe n'a été imposée sur l'agneau britannique. Pour l'instant, en tout cas. La demande la plus forte vient du Moyen-Orient, d'Arabie Saoudite, d'Israël et de Turquie, hors Union européenne. Mais également, plus près de nous, d'Espagne et d'Italie, et de France. La France aime aussi l'agneau britannique.
Seule une petite proportion des agneaux britanniques est consommée dans le pays. Richard le savait en votant pour le Brexit, mais il était déjà persuadé que les autres marchés compenseraient les pertes.
En fin de compte, si vous voulez acheter quelque chose, vous allez trouver comment le faire. À moins qu'on érige une barrière physique devant nous, les choses vont continuer, n'est-ce pas ? Et puisque ces clients avaient une relation commerciale avec nous avant le Brexit, ils continueront cette relation après le Brexit.
L'avis de Richard n'est pas partagé par tous, même pas parmi ses amis. Andrew Wheeler cultive des céréales à quelques kilomètres de là. La saison est basse pour lui, toute sa récolte est dans son entrepôt. Il a le temps de ruminer. Lui aussi, il avait voté pour la sortie de l'Union européenne en 2016.
J'ai voté en faveur du Brexit pour un certain nombre de raisons. Mais c'est probablement mon cœur qui l'a emporté sur ma tête. Je n'aimais pas que quelqu'un à Bruxelles décide de textes de loi qui nous impactent.
Aucun doute pour lui, s'il avait l'occasion de revoter, Andrew ne ferait pas le même choix.
L'une des raisons pour lesquelles je voterai différemment aujourd'hui, c'est que je vois que notre gouvernement ne s'intéresse pas à l'agriculture. Lorsque nous étions membres de l'Union européenne, il ne fait aucun doute que la pression exercée par les agriculteurs, surtout les Français, avait de l'impact à Bruxelles. L'UE avait peur, elle a toujours peur, des agriculteurs. Et ce n'est pas le cas du gouvernement britannique.
Mais surtout, Andrew a l'impression d'avoir été trompé lors de la campagne.
On nous a dit de ne pas nous inquiéter, que si nous nous inscrivions dans divers programmes environnementaux ou autres, nous serions dédommagés. et c'est ce que nous avons fait. Mais la somme d'argent est loin d'être celle qui nous avait été promise. Nous n'avons pas eu ce filet de sécurité, ce soutien qu'était la politique agricole commune. Boris Johnson nous avait dit « Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous » et ça n'a pas été le cas.
En Angleterre, la politique agricole commune est remplacée graduellement, la transition dure jusqu'en 2027, par le système de gestion environnementale des terres. Les fermiers sont payés pour prendre soin de la nature et parfois pour produire moins. Mais certains sont contraints à baisser leur production de toute façon. Le principal syndicat de fermiers britanniques, le NFU, tient une permanence au marché de Melton Monbury. Ici et ailleurs, le représentant local, James Haddon, reçoit beaucoup de plaintes, notamment de producteurs de fruits et légumes. Ces derniers ne peuvent plus compter sur la main-d'œuvre qui venait d'Europe, surtout d'Europe de l'Est, au moment des récoltes.
Vous travaillez toute l'année pour avoir une récolte et vous n'êtes pas en mesure de la faire. C'est le risque auquel les agriculteurs et les producteurs sont actuellement confrontés. C'est pourquoi la NFU souhaiterait un plan stratégique quinquennal pour les travailleurs saisonniers, pour qu'ils puissent venir en nombre raisonnable, donc sans plafond arbitraire, afin que tous les aliments cultivés puissent être récoltés avec succès.
Le gouvernement travailliste arrivé au pouvoir en juillet dernier veut revoir et améliorer les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais il reste catégorique, un retour à la liberté de mouvement est hors de question.
Les conséquences du Brexit, on en parle avec Frédéric Lebel. Bonjour Frédéric.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Au-delà du secteur agricole, quelles sont à grands traits les conséquences donc du Brexit pour l'économie britannique ?
Eh bien, pour résumer, ni le miracle, ni la catastrophe annoncée par les deux parties opposées. Londres n'est pas devenu le Singapour on Thames, rêvé par Boris Johnson. Il y a certes eu des contrats de libre-échange signés avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Singapour, mais l'ambition de signer un traité avec les États-Unis est plus que jamais compromise et les discussions patinent aussi avec un autre géant, l'Inde. En fait, l'Europe reste toujours de loin le plus grand partenaire commercial du Royaume-Uni, avec plus de 50% des échanges. Ceux qui ont eu le plus à perdre sont les petites entreprises de moins de 6 salariés qui ont vu leurs exportations chuter de 30% vers l'UE, mais les grandes entreprises s'en sont plutôt bien sorties.
Alors, un des grands arguments des promoteurs du Brexit, Frédéric, c'était le contrôle de l'immigration. On l'a entendu dans le reportage de Marie Billon, la pénurie de main-d'œuvre étrangère pose problème aujourd'hui. Quel est le bilan sur ce dossier ?
En fait, depuis 2021 et la fin de la libre circulation avec l'Europe, l'immigration légale a quand même plus que doublé, passant de 300 000 entrées par an à 700 000. L'économie et le système de santé en ont en effet besoin. Quant à la promesse de mettre fin à l'immigration illégale, elle n'a pas été tenue. Loin de là, environ 37 000 personnes ont en effet traversé la Manche en 2024. Pour les demandeurs d'asile, le Royaume-Uni n'est plus non plus partie prenante de l'accord de Dublin qui lui permettait de renvoyer les demandeurs dans le premier pays d'accueil en Europe. Bref, le Royaume-Uni n'a pas les moyens de reprendre le contrôle de ses frontières.
Et entre Bruxelles et Londres, les discussions continuent sur de nombreux autres sujets. Quelles avancées peut-on attendre ?
Eh bien, la première mesure pourrait concerner la libre circulation sous conditions pour les jeunes. Elle pourrait concerner un premier quota de 200 000 jeunes entre 18 et 30 ans. Londres aimerait aussi un assouplissement des contrôles sanitaires et vétérinaires sur les produits alimentaires. Sur le sujet sensible de la pêche, il y a un contentieux devant la Cour de justice de La Haye et des négociations doivent reprendre en 2026. Enfin, on annonce pour cette année un grand sommet Royaume-Uni-Union européenne, principalement consacré aux questions de défense et de sécurité. La France et le Royaume-Uni étant les deux poids lourds du continent, dotés de l'arme nucléaire. À l'heure de la double menace venue de Moscou et Washington, un rapprochement s'impose.
Merci Frédéric Lebel, on vous retrouve lundi au micro d'Accent d'Europe. À la réalisation, Théo Raison. Restez à l'écoute dans quelques instants sur RFI. Grand reportage nous emmène à Mayotte.